Cantique que nous avons chanté ce matin, je remarque que nous avons tous compris ce que c'est l'amour de Dieu, l'amour de Jésus. On a chanté notre attachement au Seigneur, donc la prédication de ce matin n'est pas vraiment nécessaire. Et je vais retourner à ma place. Non. C'est pas mon style d'aller si vite. Mais en tout cas, on est très près de ce que je voulais vous signaler aujourd'hui. Pourquoi j'ai pris un sujet qui se trouve dans l'Apocalypse. On a reçu une série de chapitres possibles. Marc s'est occupé de ça et puis on a dû choisir le sujet qui nous plaisait. Et je devais passer en dernier et pour être certain de ne pas empiéter sur le message de quelqu'un d'autre, j'ai pris le dernier de la liste. Comme ça, tout ce qu'on allait raconter avant moi, ça se passait avant l'Apocalypse, quoi. Et c'est dans l'Apocalypse que je veux vous emmener aujourd'hui. Vous savez que je fais toujours ça un peu trop long. Je vais essayer d'être court, Daniel. J'espère que vous n'avez pas de gigot au four. Oui, vous avez mis la minuterie, heureusement. Pour un peu voir le contexte, on va lire un bout du chapitre 1er. Je n'allais pas commencer à cet endroit-là, mais c'est pour faire la liaison avec ce qu'on a chanté déjà. Donc Apocalypse 1, verset 6. Il nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. Il a fait de nous un peuple, des rois, des prêtres au service de Dieu son Père. À lui, à Jésus donc, à Jésus-Christ, à lui donc soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Amen. Il vient, voici, il vient au milieu de la nuée, et tout le monde le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les familles de la terre se lamenteront à cause de lui. Je vais passer au verset 9. Moi, Jean, c'est-à-dire Jean le disciple de Jésus, le disciple que Jésus aimait, moi, Jean, votre frère, qui partage avec vous la détresse, le royaume et la persévérance dans l'union avec Jésus. J'étais dans l'île de Patmos, parce que j'avais proclamé la parole de Dieu et le témoignage rendu par Jésus. Le jour du Seigneur, l'Esprit de Dieu se saisit de moi et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait, « Inscris dans un livre ce que tu vois et envoie-le à ces sept églises, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Je me retournai pour découvrir quelle était cette voix, et l'ayant fait, voici ce que je vis. Il y avait sept chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un homme. Il portait une longue tunique et une ceinture d'or qui entourait la poitrine. Je saute au verset 16. Dans sa main droite, il tenait sept étoiles. Puis, à la fin du verset 17, « N'ayez pas peur, moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'ai été mort, et voici, je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va arriver ensuite. » Mais d'abord, voici quel est le secret des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept chandeliers d'or. Au chapitre 1er de l'Apocalypse, Jésus est présenté en sa qualité de juge. On lit que Jésus a sept étoiles dans sa main droite. Si elles sont dans sa main droite, c'est qu'elles lui appartiennent. Ce sont des personnes sur lesquelles le Seigneur a autorité. La traduction des étoiles sont difficiles à déterminer. Pour les uns, ce sont des anges. Pour les autres, des messagers. Et d'autres disent encore que chaque étoile est le responsable d'une église locale. Tout comme l'étoile de Bethléem, les étoiles doivent indiquer la route à suivre. Notre pasteur a une vision et nous voulons suivre cette vision. Il nous l'a montrée. On voit aussi 7 chandeliers d'or qui dispersent la lumière de Dieu dans ce monde perdu. Chaque chandelier représente une église locale. Et le Seigneur se déplace entre ces églises. Il les observe, il les examine et il les évalue. Je n'ai pas lu encore Apocalypse 2 et 3, mais on lit 7 lettres écrites, chacune à une église. Chaque église peut se reconnaître dans sa lettre, dans la lettre qui lui est adressée. C'est quand j'étais sur place à la Odyssée que j'ai compris ce que le Seigneur entendait exactement par tiédeur. Donc, chaque église avait une caractéristique qu'il reconnaissait. Ces 7 lettres sont reprises dans un seul livre, et ce livre est envoyé successivement à chacune des 7 églises qu'on a citées. L'Asie mineure, la province romaine d'Asie, comptait plus que 7 églises. En plus de celles qui ont été citées ici, il y a Hierapolis, il y a Colosse, mais le chiffre 7 est omniprésent dans l'Apocalypse. On retrouve le 7 un peu partout. Le 7 est symbole aussi de plénitude divine. Chacune des 7 lettres dont il est question en Apocalypse 2 et 3 décrit un problème qu'on retrouve dans chacune de ces églises. Certains reconnaissent pour chaque église que nous avons citée une époque de l'histoire de l'église, oserais-je dire l'église universelle. Entre d'autres, encore d'autres reconnaissent les lettres adressées à Philadelphie et Laodicée comme caractéristiques du temps proche de la fin du temps de l'église. Serions-nous comparables à Philadelphie ou à Laodicée? J'ai de la chance, c'est pas à l'ordre du jour. La lettre pour l'église d'Éphèse correspond à la condition de l'église peu après la mort de la plupart des apôtres. Elle était pertinente pour Éphèse, mais elle est certainement instructive pour chacune des 6 autres églises. C'est pour ça qu'elle a été envoyée dans un seul livre, comme un seul tout, aux différentes églises. La lettre à l'église d'Éphèse que nous allons étudier aujourd'hui est encore pertinente aujourd'hui, pertinente pour l'église du XXIe siècle, pertinente pour chacune des églises locales, de partout, partout dans le monde, et même ici à Petite-Sainte. Nous avons chanté notre amour, notre attachement au Seigneur, mais la perte de cet amour peut avoir des conséquences tragiques. Revenons à Éphèse. Paul est resté 3 ans à Éphèse. Il a enseigné sans relâche. Acte 19, verset 10 dit que tous les habitants de la province d'Asie entendirent la parole du Seigneur. Vous pouvez penser qu'il ne s'est pas reposé beaucoup. Chaque jour, il enseignait. Je suis un peu attaché à la ville d'Éphèse. Je ne suis pas habitant ou citoyen d'honneur d'Éphèse. Il n'y a plus personne qui vit à Éphèse. Mais il fut un temps où la ville d'Éphèse comptait entre 250 000 et 500 000 habitants. J'ai regardé dans le dictionnaire ce matin, la ville de Dunkerque compte 91 000 habitants. Donc la ville d'Éphèse était un peu plus grande. Quoi. Éphèse était une ville importante. Il y avait des temples à Éphèse. Nous sommes au temps de l'occupation romaine. Il y avait à Éphèse un temple particulier qui était une des 7 merveilles du monde antique. C'était le temple d'Artémis. Donc, aux nombreux habitants de la ville d'Éphèse s'ajoutaient chaque année 1 million de pèlerins qui venaient voir ce temple d'Artémis. C'était un haut lieu du commerce. On y rencontrait de nombreux marins et des commerçants. C'était un haut lieu du commerce, certes, également de la culture, un haut lieu pour les religions païennes, un lieu où il y avait de l'occultisme et de l'immoralité. Et en tant que chrétien, ce n'était certainement pas facile de ne pas être tenté dans cet endroit. Il y avait toutes sortes de possibilités pour être éloigné du Seigneur. 1 Corinthiens 15, 32 dit que l'apôtre Paul a combattu contre les bêtes fauves à Éphèse. Étant citoyen romain, Paul n'avait pas à lutter dans une arène contre des fauves, mais il entend par fauve le déchaînement des démons, je pense. Il y avait une lutte constante au point de vue spirituel. Un natif d'Éphèse a écrit que personne ne pouvait vivre à Éphèse sans pleurer sur son immoralité. Paul a œuvré pendant presque 3 ans à Éphèse. Timothée lui a succédé, et puis même l'apôtre Jean. On peut dire qu'Éphèse a eu de la chance d'avoir pu être enseigné, d'avoir pu être éduqué par Paul, certainement, Timothée aussi, mais Jean qui a vu, qui a côtoyé le Seigneur Jésus. C'était des serviteurs réputés. Comme je l'ai déjà dit, l'église d'Éphèse était considérée comme grande puisque beaucoup de personnes avaient été atteintes. Maintenant, je vous invite à encore lire 7 versets en Apocalypse 2, à partir du premier verset. À l'ange de l'église qui est à Éphèse, écrit: voici celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu as décelé qu'ils mentaient. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es pas lassé. J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. Change et reviens à ta conduite première. Sinon, je viendrai à toi et je déplacerai ton chandelier si tu ne changes pas. Voici pourtant une chose que tu as en ta faveur. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme moi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. J'avais peur que Ruth allait tout raconter à propos du vainqueur ce matin, mais ouf, parce que Ruth a évoqué le vainqueur. Le verset premier du passage à l'étude a de quoi rassurer les Éphésiens. À l'époque de l'apôtre Jean, l'empereur Domitien obligeait chaque Éphésien à rendre un culte, à lui offrir un culte. Et vous avez entendu ou compris qu'il y avait une persécution qui se mettait en marche. Mais le Seigneur tient Éphèse dans sa main. Elle lui appartient et il veut la protéger. En tout cas, si on répond favorablement aux reproches. Domitien a fait déporter Jean, l'apôtre Jean, le responsable de l'église à Éphèse à ce moment-là. Et la lettre est envoyée ici au responsable actuel, puisque Jean n'est plus là, c'est un autre responsable. Jean a été déporté sur une île qui se trouve à plus ou moins 102 km d'Éphèse. Il a été déporté parce qu'il avait certainement trop d'influence à Éphèse. C'est sur cette île de Patmos que Jean a reçu une vision qui lui a permis d'écrire l'Apocalypse. Pour résumer, disons que le début de la lettre adressée à l'église d'Éphèse commence bien. Ainsi, si vous voulez faire des reproches à quelqu'un, il est toujours bon de commencer par des qualités. Et puis seulement, vous avez le droit de dire « mais ». Et puis, à ce moment-là seulement, on peut passer aux reproches. En général, après avoir flatté, on peut passer à la pilule amère. J'en discutais encore avec Guy ce matin, les pilules amères sont profitables. Selon les versets 2, 3 et 6, les éloges sont mérités. L'Église est restée persévérante dans l'évangélisation. Elle parvenait à démasquer les enseignants. Paul les avait annoncés qu'il y aurait des enseignants qui allaient induire en erreur. L'Église n'a pas relâché ses efforts en faveur du travail pour le Seigneur. L'Église d'Éphèse, les fidèles d'Éphèse, ont travaillé durement. Ils ont contribué à augmenter le nombre des convertis. Ils ont persévéré malgré l'opposition et l'immoralité de l'endroit. Le règne des enseignements erronés prouve leur attachement au Christ et à la parole de Dieu. D'après Romains 12, versets 8 à 21, l'amour a le mal en horreur et s'attache au bien. Et pour travailler avec l'ardeur et la persévérance des Éphésiens, il fallait certainement qu'ils aient encore de l'amour pour Dieu et aussi de l'amour pour les frères et sœurs. Je veux relire les versets 4 et 5. J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. Change et reviens à ta conduite première. Sinon, je viendrai à toi et je déplacerai le chandelier si tu ne changes pas. Donc aux éloges suit un reproche sévère. L'amour du nouveau converti pour le Seigneur est très fort. Je l'ai ressenti quand je me suis fait baptiser et je l'ai vu dans les témoignages lors des derniers baptêmes ici à Petite-Sainte. Et il y a un amour très fort pour le Seigneur également dans des églises nouvelles qui se créent. L'amour pour le Seigneur et l'amour les uns pour les autres motivaient tout ce que les Éphésiens faisaient. Ils aimaient se rencontrer comme nous aimons nous rencontrer. Nous aimons partager nos expériences. Leur amour les rendait joyeux. Ils étaient créatifs. Ils étaient spontanés et pleins d'énergie, comme nous. L'amour des Éphésiens pour Jésus-Christ et le désir d'être ses mains et ses pieds, être à son service, avait cédé le pas à la routine. Il y avait moins d'enthousiasme, peu à peu. Progressivement, et même sans s'en apercevoir, travailler avec Jésus-Christ et pour Jésus-Christ n'était plus la raison principale de leur service. Leur travail s'accomplissait comme par automatisme. Je le suppose en tout cas. Je suppose aussi qu'ils priaient moins par habitude, où ils faisaient moins appel à la participation du Saint-Esprit. Par habitude, certainement, ils étaient davantage attachés à l'œuvre du Seigneur qu'au Seigneur de l'œuvre. Nous sommes dans les années 90 à 95, après la naissance de Jésus. Et l'Église a certainement perdu un peu de son enthousiasme. Et l'apôtre Jean envoie sa lettre en fin de vie. En plus, l'église d'Éphèse a subi la déportation de Jean. C'était, comme je l'ai dit, un conducteur qui avait vu Jésus. La motivation pour plaire à Jésus-Christ s'était certainement émoussée un peu. L'exil de Jean a certainement laissé un vide important. La situation d'Éphèse inquiétait le Seigneur Jésus, c'est pour ça qu'il s'adresse à Éphèse. Jésus avait tout observé. Il avait jugé nécessaire d'intervenir. Pour pouvoir résister aux faux prophètes, Les Éphésiens témoignaient encore de l'amour, mais leur amour du début, le premier amour, cet enthousiasme, le fait d'être amoureux pratiquement du Seigneur, avait un peu disparu. Il faisait défaut même. L'amour inconditionnel pour Jésus-Christ et l'amour pour le prochain, chrétien et non chrétien, ne se percevaient plus. Jésus doit leur adresser un commandement, un ordre. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé, change et reviens à ta conduite première. En aimant moins qu'avant, les Éphésiens ont restreint les gestes d'amour qui sont si accrocheurs pour des gens qui cherchent le Seigneur. Ils avaient perdu de la compassion, de la tendresse. L'hospitalité ne s'exerçait plus. Ils ne prenaient plus le temps d'écouter quelqu'un d'autre qui avait un souci. Ils priaient peut-être moins les uns pour les autres. La perte d'amour produit toujours des effets néfastes sur les activités d'une église, et également sur le témoignage. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. Quand on tombe, on se fait mal. Et il arrive qu'on fasse mal aux autres. La lettre de Paul aux Éphésiens, adressée 30 ans plus tôt, prouve que les Éphésiens avaient un haut niveau spirituel. Quand l'amour pour Dieu et le prochain n'y sont plus, on va immanquablement perdre l'envie d'être régulier dans le service pour le Seigneur. Et on va même être tenté d'aller, par exemple, un dimanche sur deux ou un dimanche sur trois, puis finalement rester au lit le dimanche matin. Quand le cœur n'est plus rempli uniquement pour le Seigneur, c'est dangereux. Le Seigneur attend de nous qu'on l'aime. Qu'on l'aime plus que le conjoint. Plus que les parents. Plus que les enfants. Plus que tout. On prouve notre amour envers le Seigneur en voulant le connaître toujours mieux par la lecture régulière de la Bible et en ayant des contacts permanents avec le Seigneur par la prière, bien sûr, et par la fréquentation de l'Église. On relâche tous un moment ou un autre dans notre amour. On a besoin de se repentir constamment et de faire nôtre les principes d'Actes 2, 42, il persévérait dans la doctrine. Et quand on se repent, comme il est demandé par le Seigneur, il veut nous aider et il veut nous pardonner. Il nous pardonne. On a parlé de premier amour et il est mis « Change et reviens à ta conduite première ». Selon les versions, il est mis « Repens-toi et fais les œuvres que tu accomplissais au début ». Ce premier amour et les œuvres premières sont à mettre en parallèle. Le Seigneur veut que notre premier amour s'enflamme de nouveau. Il veut qu'on aime davantage. J'avoue que je pourrais aimer davantage et en faire davantage. Je vous demande pardon, je vous exhorte, mais je ne le fais peut-être pas moi-même. Le Saint-Esprit veut et peut nous remplir pour aimer de l'amour que Christ a manifesté en donnant sa vie pour nous. Lisez Éphésiens 5, verset 2. Sans réponse favorable de notre part, le manque d'amour n'aura plus la force d'attirer les non-croyants. Et si on n'attire plus les non-croyants par l'amour, cela va certainement à l'encontre du plan de Dieu pour l'Église. La culture et la pratique de l'amour sont une question de vie ou de mort pour Éphèse. Et cet amour a de l'importance ici également à Petite-Sainte. Je ne dis pas que nous manquons d'amour, mais on doit faire attention à ne pas relâcher. On ne sait pas pourquoi les Éphésiens ont perdu ce premier amour. d'après ce que nous avons lu dernièrement en 1 Jean 4, verset 7, à 1 Jean chapitre 5, verset 3, quand on aime Dieu, on aime le prochain. Et ces deux amours vont de pair. Quand on aime Dieu, on aime le prochain. Si on n'aime pas le prochain, c'est qu'on n'aime pas Dieu. Donc ces deux amours vont de pair. Nous savons que dans le domaine de l'amour, entre mari et femme, l'amour passionnel, enfin c'est ce qu'on dit, l'amour passionnel s'estompe vers la cinquième année. Et pour le maintenir à niveau, il faut y travailler. Vous pouvez prendre de bons renseignements en Éphésiens 5, à partir du verset 23 jusqu'au 30e. Là, vous pouvez étudier le rôle de l'homme dans la vie de couple. Il doit être prêt à donner sa vie pour son épouse. Et certains disent que si l'homme prenait sa responsabilité à la lettre, le féminisme serait certainement moins fort qu'actuellement. Si vous voulez d'autres renseignements, adressez-vous à Ruth qui vend des livres de Gary Chapman appelés « Les cinq langages ». Et ce Gary Chapman a écrit un autre livre que je n'ai pas, « Toujours marié, toujours amoureux ». Je ne suis pas conseiller conjugal et je vais m'arrêter là, mais inspirez-vous de ces écrits. Aimer Dieu et notre prochain requiert un effort. On peut être des chrétiens modèles, présents à toutes les réunions et instruits, mais malgré tout déplaire au Seigneur. Ce qu'il veut, c'est qu'on maintienne l'amour au niveau qu'il avait lors de notre baptême. Il faut y travailler tous les jours. Et il importe de s'encourager les uns les autres. Dernièrement, on a également lu Hébreux 10, versets 24 et 25, sur lesquels je ne vais pas revenir. Souvenez-vous aussi qu'en Matthieu 22, les chrétiens doivent être entièrement consacrés et montrer un amour sacrificiel envers leur prochain. Matthieu 5, versets 43 à 48, indique qu'il faut aimer nos ennemis. C'est dur d'aimer ses ennemis, mais le Seigneur en a donné les raisons. Jean 13, versets 34 et 35, Jésus donne un commandement nouveau. L'amour doit être la caractéristique majeur de chaque disciple de Christ. C'est par notre amour qu'on est reconnu comme étant des fidèles de Jésus, des disciples de Jésus. Il est important, d'étudier l'amour. Il y en a un peu partout dans la Bible, c'est un sujet très vaste. Jude 21 recommande de rester dans l'amour de Dieu. Jésus le dit aussi en Jean 15, versets 9 et 10. Il faut éviter de se laisser distraire dans notre marche avec le Seigneur. Nous devons faire comme Marie, la sœur de Lazare, la sœur de Marthe. Elle était assise au pied de Jésus, alors que sa sœur était occupée à la cuisine. Elle voulait recevoir dignement le Seigneur en préparant la maison, en préparant à manger certainement. Mais Marie écoute le Seigneur. Marthe finit par le dire, « Seigneur, est-ce que cela ne t'ennuie pas que je dois faire le service toute seule ?» Mais pensant bien faire, Marthe se prive des paroles du Seigneur. Marthe finit par être frustrée et en colère même, tandis que Marie était joyeuse d'écouter d'abord Jésus et de reprendre le travail ensuite. Donnons priorité à l'étude du Seigneur étudier notre Bible équivaut à s'asseoir aux pieds de Jésus. À nous de faire les bons choix. Toute la communauté doit s'investir. La lettre pour Éphèse a été adressée à l'ange de l'église d'Éphèse, au responsable, au pasteur de l'église d'Éphèse. Mais cet appel s'adresse à chacun des membres de l'église. Nous devons tous nous y mettre. Si nous voulons aimer comme le Christ nous a aimés, nous devons prier pour que le Saint-Esprit nous rende capables de comprendre et d'apprécier l'amour sacrificiel de Jésus. Jésus a donné sa vie. Il nous a aimés tellement qu'il a donné sa vie. Il avait au début de la trentaine. Il était au début de la trentaine. Moi j'ai 65 ans et je m'inquiète parfois pour ma santé. Mais le Seigneur Jésus n'avait que 30 ans, une trentaine d'années, quand il a voulu mourir, par amour pour nous, pour qu'enfin l'homme puisse être délivré de ce poids du péché. Si nous avons beaucoup d'amour pour le Seigneur, nous aimerons aussi notre prochain. Notre amour, notre attachement à Dieu se répercutera automatiquement sur ceux qui nous entourent. Nous devons prier avec persévérance, prier jusqu'à ce qu'on comprenne l'amour de Dieu. Lisez à propos de l'amour en Éphésiens 3, versets 14 à 19 et 1 Jean 4, 11 et 19. Ces derniers versets sont d'ailleurs repris dans le passage que je vous conseillais en 1 Jean 4. La croissance dans l'amour, la croissance de l'amour dans notre vie, c'est un combat. C'est pourquoi on doit prier sans cesse. Il faudrait prier presque pour comprendre cet amour à chaque culte, à chaque réunion de prière. Nous voulons aimer et intercéder en faveur du prochain. Et nous devons faire. Nous devons prier pour notre frère, pour notre sœur, parce qu'après le baptême, on relâche un peu. Et on ne peut pas relâcher, justement. Quand Paul convertissait quelqu'un, il priait. Il priait pour ceux qui l'amenaient au Seigneur. Et nous voyons aussi que Jésus a prié pour ses disciples. Il est très important de rester dans l'amour. Prions pour que l'amour abonde parmi nous. Aller dans une communauté où on sent de l'amour, c'est agréable. Celui qui recherche Dieu va peut-être être interpellé aussi, et certainement interpellé parce que c'est le combat du Seigneur Jésus, je pense, d'attirer davantage de gens par l'amour. On doit déborder d'amour. Aimer, c'est plus que des mots. Comme je l'ai dit, c'est de la pratique. On a parlé de victoire. La victoire était à portée de main des Éphésiens. Le vainqueur est récompensé par la vie éternelle. Vous vous souvenez des prédications de Marc en 1 Corinthiens 13. Je vais vous rappeler quand même quelques caractéristiques. L'amour est patient. Il est plein de bonté. Il n'est pas envieux. Il n'est pas vantard, il n'est pas arrogant, il n'est pas malhonnête, il n'est pas intéressé, il n'est pas irritable, il n'est pas suspicieux, il n'est pas heureux de l'injustice, mais il se réjouit plutôt de la vérité. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. Les Éphésiens ont montré la réalité de leur foi en se repentant. Voyez 1 Jean 5, verset 5. Dans le Nouveau Testament, le vainqueur, c'est le vrai croyant, car il croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et par la foi, nous sommes certains d'être sauvés si nous croyons que le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu et qu'il a sacrifié sa vie pour nous. Nous pourrons certainement manger de l'arbre de vie. Et je suis convaincu que nous mangerons tous de ce fruit si nous croyons fermement, si nous sommes attachés au Seigneur Jésus, si nous sommes amoureux du Seigneur Jésus. La lettre écrite, enfin, une lettre a été écrite au début du IIe siècle par un certain Ignace, le responsable de l'église d'Antioche, en Syrie. Et elle révèle, sans évoquer l'existence de la lettre adressée aux Éphésiens, il y fait part qu'une délégation de frères d'Éphèse est venue à sa rencontre jusqu'à Smyrne. Smyrne est à 64 km d'Éphèse. Ils sont venus en délégation pour encourager et fortifier Ignace, qui était alors sur le chemin de l'exécution à Rome. Il fait également l'éloge de leur amour, de l'amour des Éphésiens. Il finit par ces mots: vivant d'une vie nouvelle, vous n'aimez rien que Dieu seul. Si nous aimons le Seigneur de cette manière, nous allons certainement maintenir notre amour et nous allons certainement encore pouvoir témoigner autour de nous et nous allons certainement encore attirer de nombreux non-croyants qui sont en recherche de quelque chose de spécial. Si nous témoignons à nos amis non-croyants que nous allons chaque dimanche à un certain endroit par amour pour quelqu'un, ils vont peut-être être intéressés pour aller voir pourquoi nous sommes si amoureux du Seigneur. Amen.